Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nicolas Moineau, 46 ans, est un champion d'escalade non-voyant. Originaire des Yvelines, il a perdu la vue progressivement à partir de l'école primaire. On lui a diagnostiqué une rétinite pigmentaire à 14 ans. Et plus tard, la pratique de l'escalade l'a aidé à accepter son handicap. Nicolas Moineau est devenu l'un des tout meilleurs dans sa discipline. Il a notamment été sacré champion du monde en 2012. Et il vient de raconter son parcours dans un livre publié en mars, livre intitulé « À perte de vue ». Nicolas Moineau témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosalin.
Nicolas Moineau est né le 21 mai 1977 au PEC dans les Yvelines. Il grandit en région parisienne avec un père chef de chantier dans le BTP et une mère secrétaire comptable. Il a deux frères, l'un plus grand et l'autre plus petit que lui. Nicolas est un enfant timide qui se sent un peu en décalage avec les autres enfants de son âge.
Moi, je ne rentrais pas forcément facilement en contact avec les gens. J'avais une vie intérieure. J'étais pas mal dans le nez dans les bouquins. Et puis, souvent dehors, pas mal à me raconter des histoires en fait. Et un peu de mal à me lier avec les gens.
Dès l'école primaire, la vue de Nicolas commence à diminuer. Il y a comme un voile opaque qui l'empêche de voir correctement une fois la nuit tombée, quand il n'y a pas assez de lumière.
J'ai commencé à être gêné pour le lire, pour vraiment avoir accès à l'information, pour les études, quoi. Et en fait, à un moment, au collège, mes résultats ont chuté, lire au tableau, j'avais du mal, et en même temps, j'avais du mal aussi à l'exprimer, pour pas embêter les autres avec mes problèmes, peut-être une histoire de presque de honte aussi, je pense. Hein. Ouais, puis une sorte de déni aussi, de se dire, bon, ça va, je suis pas trop différent. Oui, dans le déni, et à me mentir à moi-même, je pense, pour me protéger, quoi. Et à mentir, du coup, à mon entourage.
Nicolas ne parle pas du tout de ses problèmes de vue à ses parents ni à ses professeurs. Jusqu'au jour où son prof de français lui demande de lire un texte à voix haute devant toute la classe. Nicolas n'y arrive pas et ses parents sont convoqués. Comprenant que leur fils a des problèmes de vue, ses parents l'emmènent voir un spécialiste dans un hôpital parisien. Nicolas fait une batterie de tests et le diagnostic tombe. Il est atteint de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative de l'œil. Sa vision va se dégrader progressivement, jusqu'à devenir complètement aveugle. Nicolas a 14 ans.
Ce qui va avec ce diagnostic, c'est le pronostic, quoi. Donc on ne sait pas, à plus ou moins long terme, c'est la cécité. Et là, pour un ado, c'est dur à entendre. C'est juste impossible.
Les parents de Nicolas font des démarches pour qu'il soit reconnu handicapé. Mais l'adolescent est dans le déni et refuse toute aide. Il ne veut pas porter de lunettes qui pourraient préserver ses yeux, par exemple. Il se dit que de toute façon, il ne voudra pas vivre en tant qu'aveugle et qu'il préférerait mourir avant d'être complètement non-voyant. Arrivé au lycée, sa vision continue de diminuer et il a de plus en plus de mal à suivre les cours.
Mes résultats dégringolent, du coup je joue à les cancres, alors que à la base je ne l'étais pas du tout. Enfin, en début de scolarité, j'étais plutôt dans le trio de tête en classe, quoi. Et ouais, je me construis une sorte de personnage de branleur, quoi, en fait, hein. Je finis par me faire quand même pas mal de copains. On part dans des délires plus festifs et un peu rebelles. Beaucoup d'excès, beaucoup de conneries. Alcool, stupéfiants. Je fuis une réalité, un avenir, une perspective dont je ne veux absolument pas entendre parler, quoi. Donc, je me disais, je ne survivrai pas à la cécité, quoi.
Nicolas finit par arrêter le lycée pour suivre des cours à domicile. Mais il ne travaille pas vraiment et rate son bac. Il est alors réorienté vers un établissement adapté aux déficients visuels. Il a 18 ans et déménage à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Là-bas, il fait du sport, découvre l'escalade et surtout, il commence à accepter sa maladie.
Pour la première fois, je fréquente d'autres déficients visuels. Et il y en a deux, trois qui grimpent dans un petit club. Et du coup, je me joins à eux pour aller voir ce que c'est. Et ça m'éclate, quoi. Et puis, je m'aperçois que c'est quand même une activité où je vais pouvoir m'exprimer malgré ma mauvaise vue, quoi. Dans cette activité-là, il n'y a pas trop de notion de réflexe, de vitesse, d'exécution. Chacun trouve ses solutions. Et en développant beaucoup d'endurance et en développant une gestuelle un peu particulière, on peut réussir à grimper à un bon niveau, finalement. Je me suis mis à grimper assidûment.
En plus de grimper en salle, Nicolas commence à faire de l'escalade en falaise, d'abord dans un club, puis tout seul. Sa vision continue de se détériorer et pendant plusieurs années, il boit beaucoup. Quand il a 22 ans, il décide de reprendre sa vie en main et de trouver du travail. Il veut devenir masseur-kinésithérapeute. Il reprend alors des études adaptées pour les déficients visuels et déménage à Limoges, en Haute-Vienne.
L'avenir paraissait... Enfin, ça me paraissait vraiment mal engagé, quoi. Du coup, je change de ville, je change de mode de vie. Je me dis, maintenant, je vais faire quelque chose, quoi. Pour le coup, il y a vraiment... un mécanisme d'insertion et de... Voilà, je me sauve en reprenant mes études. Je grimpe quand même, mais je grimpe un peu moins souvent que quand j'étais à Clermont-Ferrand parce que j'ai moins d'occasions. Et du coup, je me range.
Comme sa vision continue de baisser, Nicolas apprend chez lui à s'aider d'une canne blanche pour se déplacer. Il la prend avec lui dans son sac quand il sort, au cas où, mais il n'ose pas la sortir en public. Un soir, quand il a 24 ans, il n'a pas d'autre choix que de l'utiliser dans la rue, alors qu'il arrive à la gare de Limoges après un voyage en train.
Je traverse le hall de la gare qui est éclairé, ça va. Puis arrivé devant la gare, voilà, je sais que le trajet est compliqué, et je me dis, mais là, maintenant, il faut que je la sorte, quoi, parce que sinon, je vais me cogner, je vais arriver chez moi en trois quarts d'heure et avec une arcade ouverte ou un genou en vrac, enfin, ça va pas bien se passer. Et je suis resté 5 ou 10 minutes à me dire, je la sors pas. Et donc je la sors et effectivement, ouais, sortir la canne blanche, ça a été un petit traumatisme et une libération en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de libération parce que je marche d'un bon pas. Et du coup, je marche plutôt vite et je fais le trajet vite fait en un quart d'heure et sans me faire mal, quoi. Donc je me dis, ouais, c'est trop bien.
Nicolas obtient son diplôme de masseur-kinésithérapeute. Il déménage à Cahors, dans le Lot, où il trouve un poste dans un cabinet de kiné. Il travaille beaucoup, alors il ne fait plus beaucoup d'escalade. Puis en 2006, il rencontre Odile, l'amie d'une copine à lui. Ils tombent amoureux, emménagent ensemble, et Odile tombe enceinte. Leur fils Emmanuel naît en 2008, et Nicolas est très heureux de devenir papa.
Et puis en même temps, ouais, c'est quand même aussi une période d'angoisse, parce que bah, je suis en train de perdre mes derniers restes visuels, je suis en train de franchir le pas d'utiliser la canne blanche la journée aussi. Ouais, je suis en train de franchir les derniers pas vers le statut de personne aveugle, quoi. Comment m'occuper de mon fils, tout ça, j'ai plein d'interrogations qui sont un peu des angoisses, quoi. Comment sortir, me déplacer dans la rue avec mon fils, en étant autonome et en sécurité. Sortir avec un bébé qui est fragile, qui a 3 mois et tout, enfin voilà. Donc ouais, au début c'est compliqué, quoi.
Progressivement, Nicolas gagne en confiance pour s'occuper de son fils. En 2010, il devient complètement non-voyant. Il a 33 ans. Il est désormais accompagné d'un chien guide, Dougie, pour l'aider à se déplacer. À cette période-là, il quitte le cabinet où il travaille parce que la charge est trop intense et qu'il n'en peut plus. Il se remet alors à grimper assidûment, principalement en falaise, qu'il préfère largement à l'escalade en salle. Au début de l'année 2012, Nicolas apprend par un ami que les mondiaux d'escalade, valides et handisport, vont avoir lieu en septembre en France, à Paris. L'équipe de France d'escalade cherche à monter une équipe de grimpeurs handisport et on propose à Nicolas d'en faire partie. Au début, il refuse.
Moi, je suis plutôt à loisir et multisport et... Voilà, j'aime bien l'alpinisme, la montagne et tout. J'aime bien la falaise. Je suis pas trop branché compétition. Donc j'hésite, je change 50 fois d'avis et puis je finis par dire oui. Je me suis dit, allez, ça va être l'occasion de me dépasser, quoi. Je vais au sélectif en juillet et les mondiaux sont en septembre. Donc on est vraiment, on débarque comme des amateurs complets, quoi. Donc je pense que je me prépare, ouais, je commence à me préparer un peu sérieusement. Mai, juin, je vais au sélectif, je suis pris. Et je continue à me préparer tout l'été, je me prends au jeu, je me mets à faire attention à ce que je mange, perdre du poids, m'entraîner fort. Et là, je sens que je suis plus à l'aise quand même au niveau escalade, voilà, mon niveau augmente, quoi.
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of France.
Le 12 septembre 2012, Nicolas arrive avec son chien guide Dougie à Paris. Les championnats du monde d'escalade ont lieu au palais Omnisports de Bercy. Pour la compétition des non-voyants, les grimpeurs sont accompagnés par un guide qui leur indique comment se déplacer sur le mur pour aller le plus haut possible. Le guide de Nicolas s'appelle Sébastien. Ensemble, ils passent les différentes étapes de qualification et le 15 septembre, Nicolas se retrouve en finale face à un grimpeur japonais et un grimpeur italien.
Et là, c'est 12 000 personnes dans le public et on grimpe devant 12 000 personnes, quoi. Là, je commence à stresser. Ouais. Autant pour les qualifs, j'étais un peu tranquille. Dans une heure et demie, c'est à moi. Dans une heure, c'est à moi. Ça s'approche. Bon, du coup, on sort sur l'estrade pour aller observer la voie qu'on va devoir escalader. 12 000 personnes qui nous applaudissent vite fait. Mais après, donc, le speaker, il dit silence radio. Là, maintenant, c'est... Pour nous permettre d'entendre les consignes des guides, le public doit être silencieux. Du coup, 12 000 personnes silencieuses, quoi. Donc là, on observe la voie. C'est le guide, en fait, qui nous décrit la voie. Donc là, il faut avoir la mémoire bien affûtée, sauf que ça marche jamais. En fait, on arrive à retenir les 10 premiers mouvements, mais après, on est perdu. Donc voilà. On retourne à l'isolement, et là, on passe les uns après les autres. Sachant que, bah, comme je suis à l'isolement, je ne sais pas ce que les autres concurrents ont fait, quoi.
Nicolas est le dernier à passer. Il ne sait pas à combien de mètres ont escaladé ses adversaires. S'il parvient à grimper plus haut qu'eux, il deviendra champion du monde.
J'y vais, je me fais guider par Seb, et puis j'y vais à fond jusqu'à assez rapidement quand même tomber sur un problème, des prises vraiment difficiles à tenir, et un mouvement que je comprends pas, et je tombe. Et là, du silence complet, on passe à une explosion immense de 2000 personnes qui hurlent, quoi. Parce que finalement, tout le monde sait que j'ai gagné, sauf moi. Donc moi, je tombe et je suis complètement avalé par une espèce de foule qui hurle, quoi. Et du coup, je retourne derrière, là, dans les coulisses, et j'apprends... Il y a Seb qui vient et qui me dit « Ouais, c'est bon. » Et là, c'est l'explosion de joie, j'en peux plus, enfin, j'y crois pas, quoi. C'est grosse émotion, là. C'est une grande fierté, quoi. Une grande fierté. Et finalement, je me dis, je faisais tout ça tout seul dans mon coin, quoi. Et j'ai réussi à faire quelque chose devant plein de gens. Et je m'aperçois que ce que je faisais, c'était peut-être quelque chose de peut-être d'extraordinaire, quoi.
Après cette victoire, la Fédération Française d'Escalade propose à Nicolas de rester dans l'équipe de France. Entre 2012 et 2018, il est champion d'Europe et deux fois vice-champion du monde. Il arrête la compétition en 2018 et reprend une activité de kinésithérapeute à mi-temps. Le reste de son temps libre, il le passe à grimper les falaises.
C'est un peu un refuge. C'est pas un endroit où je vais subir tous les soucis de la vie quotidienne et la maladresse ou les incivilités des gens et tout. Enfin, en fait, c'est un peu un endroit où on arrête de subir et on est maître de son destin. Il n'y a que des problèmes simples à résoudre, en fait. On a trois prises, on essaye d'en atteindre une quatrième, et on essaye de grimper plus haut, et puis les solutions, elles sont dans mes mains, et dans mes pieds.
Et vous pensez continuer encore longtemps ?
Dans une optique de haut niveau, vraiment de dépassement, d'essayer des voies extrêmes et tout, je sais pas. Mais grimper, jusqu'à... Bon, j'en sais rien, moi, jusqu'à 80 ans, ouais, si je peux, jusque-là, quoi. Enfin, moi, j'aime bien le fait de mener ma barque, en fait. Sachant que je suis dépendant de quelqu'un relativement souvent dans la vie, voilà, un petit moment d'autonomie, pour moi, c'est précieux, quoi.
Récemment, le 15 octobre, dans le département du Lot, Nicolas Moineau a escaladé une voie particulièrement difficile.
Oui, après un an de préparation, il a escaladé une voie de catégorie 8A. C'est l'une des catégories les plus difficiles qui existent, qui est réservée aux grimpeurs les plus expérimentés, même chez les voyants. C'était une voie de 40 mètres située sur la falaise de Saint-Géry dans le Lot. Alors, c'est difficile de savoir si d'autres non-voyants ont déjà escaladé des voies aussi difficiles que celle-là, mais à la connaissance de Nicolas, ça ne s'est jamais fait dans le monde, et de toute façon, même si c'était le cas, ça reste très rare et ça reste un vrai exploit.
On l'a dit au début de cet épisode de Code Source, il vient de publier un livre qui raconte sa vie au mois de mars. C'est important pour lui de témoigner ?
Oui, c'est très important pour lui. Il m'a raconté que ça avait été une vraie introspection, que ça l'avait beaucoup aidé d'écrire ce livre, et il l'a pris comme une tribune pour parler de handicap visuel et pour raconter ce que c'est le quotidien quand on est déficient visuel.
Et je donne la référence du livre de Nicolas Moineau, c'est « À perte de vue », publié en mars donc aux éditions Artaud, écrit avec Emmanuel Dalseco. Merci Ambre et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas les deux autres podcasts du Parisien, Le Sacre jusqu'à Paris 2024, chaque mercredi, confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques, et Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi. Les trois podcasts du Parisien sont disponibles sur leparisien.fr, bien sûr, et sur toutes les plateformes.